Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1. Nous allons lire les versets 12 à 21, jusqu'à la fin du chapitre. 2 Pierre, chapitre 1, donc à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons déjà vu donc dans cette lettre que Pierre nous a dit que Dieu, par sa puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et que c'est sur cette base que Pierre nous exhorte à veiller, à meubler cette foi que nous avons reçue de Dieu, afin d'être affermi, afin de ne pas broncher. On revient sur l'idée d'équilibre auquel nous avons fait allusion tout à l'heure en Romains chapitre 5. Et il donc a donné toute une liste que nous avons vue il y a quelque temps. Et il a souligné, comme il le dit dans le verset 12 et suivant, la nécessité de rappeler ces choses, la nécessité de revenir constamment à ces choses, bien que ceux à qui Pierre s'adresse soient au courant, bien qu'ils les sachent, bien qu'ils soient affermis dans cette vérité. Mais il y a besoin de revenir, parce que nous avons tendance, comme nous le savons tous, à oublier ces choses. Il est nécessaire de revenir au centre, à l'essentiel, au message, à l'évangile de Christ. Notre but n'est pas de rechercher des nouveautés ou d'imaginer des choses, mais de revenir au témoignage de l'Écriture qui annonce la venue de Christ et qui ensuite parle de cette venue, parle de son ministère. Et comme nous l'avions déjà abordé la dernière fois, parle de son retour dans la gloire, pour amener toutes choses à leur fin, pour juger ce monde, pour prendre les siens avec lui dans la gloire pour toujours. Et j'aimerais simplement apporter quelques précisions là-dessus. Nous allons revoir ce verset 16 en particulier ce matin, un peu plus en détail, parce que certains commentateurs, il est vrai, affirment que lorsque Pierre parle de la puissance et de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il fait référence à l'incarnation. Il fait référence à la venue de Christ dans ce monde pour accomplir le salut, pour sauver son peuple, pour souffrir, pour mourir à la croix, pour remporter la victoire sur le péché et sur la mort, et dans lequel donc sa venue, il révèle à la fois son humanité, qu'il est semblable à nous, qu'il est devenu semblable à nous. Mais il révèle aussi sa divinité, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et bien entendu, Pierre fait référence à la transfiguration, comme il le dira dans les versets suivants. Il fait référence à cette vision de la gloire que lui et deux autres disciples ont vue lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré sur la montagne et qu'ils ont aperçu quelque chose de sa gloire. Mais les termes que Pierre utilise, il parle de puissance, c'est le terme dunamis, dynamite, et surtout le terme qui est traduit par avènement, qui est le terme de parousia en grec. Ce terme, quand il parle et quand il s'adresse ou quand il mentionne le Seigneur Jésus-Christ, parle du retour de Christ. Alors bien entendu, les événements, la venue de Christ dans ce monde et le retour de Christ dans la gloire ne peuvent pas être séparés, ne sont pas indépendants. Et quand Pierre mentionnera, et on va le voir plus particulièrement la fois prochaine, quand Pierre fait allusion à la transfiguration, c'est un aperçu de la gloire de Christ, tout comme les prophètes dans l'Ancien Testament ont annoncé la venue du Messie, la venue du Christ, qu'il allait venir pour sauver son peuple. Les disciples, les apôtres, comme Pierre, se positionnent comme étant non seulement les témoins de la venue de Christ dans ce monde et qu'il s'est révélé comme le Messie, mais ils en sont aussi les interprètes et ils annoncent quelque chose d'encore plus glorieux, c'est-à-dire la venue de Christ, le retour de Christ dans une gloire encore plus grande, une gloire qui ne pourra laisser personne indifférent, puisque toute langue confessera, reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur. Mais cette réalité et l'accent que Pierre met, il parle surtout donc de retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et c'est cette réalité, rappelons-nous, que le but de Pierre est d'encourager les croyants, les chrétiens à qui il s'adresse. Il veut les fortifier, il veut les encourager, les réconforter alors qu'ils sont au milieu d'épreuves, de difficultés. Et il veut les encourager. Et c'est par cette vérité du retour de Christ qu'il va les encourager. Il y a toutes sortes de questions que l'on peut entendre autour de nous, que l'on peut voir même dans l'Église, des questions autour de nous, du genre de personnes qui disent, ben voilà, l'Évangile a été annoncé depuis maintenant 2000 ans, qu'est-ce qu'on voit comme changement dans le monde? Il y a même des questions au sein de l'Église, et c'est par exemple la situation de l'Église au 1er siècle, et c'est par exemple la situation de l'Église à Thessalonique, auquel Paul doit répondre à différentes questions. Mais les chrétiens du 1er siècle pensaient que l'Évangile allait conquérir ce monde en quelques années, que Jésus-Christ allait revenir rapidement de leur vivant, et que finalement, ils allaient être avec lui dans la gloire. Et cela de manière rapide. Et comme cela ne se passait pas, comme les années se passaient, bien sûr, il y avait toutes sortes de questions. Les Thessaloniciens, par exemple, se demandaient, mais qu'en est-il des chrétiens qui meurent? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Etc. Ils ne comprenaient pas. Et pour répondre à cette question, l'apôtre Pierre parle et leur donne comme encouragement cette vérité de l'avènement du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que le retour du Seigneur Jésus-Christ souligne qu'il y a un plan de salut. Le retour de Christ rappelle cette vérité qu'il y a un plan de salut, que c'est le message de toute la parole de Dieu, que dans l'éternité passée, si on peut utiliser ce terme, Dieu a planifié le salut de son peuple. Il a choisi un peuple composé de toute nation, de toute race, de toute langue, de toute époque. Et il a établi ce plan avant même la fondation du monde, avant même la création de ce monde, avant même la création de l'homme, avant même la chute de l'homme. Ce n'est pas une roue de secours que Dieu a trouvé suite à la chute d'Adam. Non, Dieu a planifié le début. Il a planifié le déroulement de toute l'histoire. Il a planifié même la fin. Il a planifié tout le salut. Et nous voyons cela, nous voyons ça qui est présenté progressivement tout au long de l'Ancien Testament, où Dieu déjà se révèle à Adam et à Ève que c'est lui qui va subvenir, qui va pourvoir à l'habit qui revêt de manière parfaite. C'est lui qui accepte le sacrifice d'un substitut et non pas le fruit du travail de l'homme quand il accepte le sacrifice d'Abel. Ensuite, il appelle Abraham, il crée. Il appelle ce peuple qui grandit, qui se retrouve en Égypte, et puis on pense que c'est la fin. Et Dieu intervient, et Dieu sort ce peuple de l'esclavage, l'amène à la terre promise. Mais là encore, tout au long, on connaît les images que cela nous donne au sujet du salut. Même quand on voit l'histoire du peuple dans la terre promise, on voit ce peuple qui s'éloigne, qui est ensuite emmené en captivité. On pense que là encore, c'est la fin. Et Dieu intervient. Il y a un reste et il garde ce reste. Et même si entre les deux testaments, il y a une période d'environ 400 ans où il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de proclamation, du moins, on n'a pas de récits, d'écrits, de révélations de Dieu pendant toute cette période. Il y a un reste qui attend. Il y a un peuple qui attend. Et au temps marqué, au temps choisi, déterminé depuis toujours par Dieu, le Fils de Dieu vient dans ce monde. Et il vient pour mourir, pour souffrir, pour être crucifié. Et là encore, on pense que c'est la fin. On a les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ne comprennent pas. Ils pensent que, encore une fois, c'est terminé. Mais au contraire, Christ est ressuscité. Et comme il l'avait promis, comme il l'avait annoncé, comme les prophètes l'avaient annoncé avant, tout au long de l'Ancien Testament, il monte au ciel et il envoie l'Esprit au jour de la Pentecôte. Et le retour de Christ dans la gloire, fait partie de ce plan de salut et montre que tout n'est pas terminé. Nous voyons ce qui s'est passé dans l'histoire, mais nous savons qu'il y a encore des choses à venir, des choses que Dieu a planifiées, des choses qui vont se passer, comme il l'avait annoncé dans le passé, et des choses se sont passées. De même, il a annoncé qu'il y a des choses qui doivent arriver et nous savons qu'elles vont arriver. Et c'est toute cette vérité, cette réalité du retour de Christ qui nous rappelle cela. Le salut n'est pas le fruit d'un hasard. Le salut n'est pas une roue de secours. Le salut n'est pas Oui, une deuxième possibilité, parce que la première a échoué. Non, le salut fait partie véritablement du plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de nos événements ou de nos situations, mais c'est quelque chose qui dépend de ce plan que Dieu a établi avant même la création du monde. Tout t'a été respecté dans le passé et tout va être respecté dans le futur. La fin est aussi certaine que le commencement. C'est un plan que Dieu a prévu, que Dieu a établi avant même l'histoire, avant même le temps. Et c'est un plan qu'il exécute et que personne ne pourra l'arrêter dans l'exécution de ce plan. Et c'est la première chose que cette vérité du retour de Christ, de l'avènement de Christ, nous rappelle, nous souligne, c'est que il y a un plan, et un plan merveilleux de salut, un plan de grâce. La deuxième chose que ce retour de Christ, que l'avènement de Christ dans la gloire rappelle, c'est aussi qu'il y a la terrible réalité du péché et du mal. C'est vrai que d'autres doctrines soulignent cette réalité. Il y a la réalité de la chute de l'homme, de sa désobéissance. Il y a la doctrine du péché, ce qu'est le péché. Il y a la doctrine du salut qui nous rappelle que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous délivre de l'esclavage du péché. Mais le retour de Christ souligne cette réalité, nous rappelle qu'il y a dans ce monde deux royaumes. Il y a le royaume du prince de ce monde et il y a le royaume de Dieu. Paul nous rappelle même, par exemple en Éphésiens 6, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le mal, est un royaume qui est dirigé par le prince de ce monde. Et que se passe-t-il entre ces deux royaumes? Ben, inévitablement, il y a un conflit. C'est tout à fait inévitable. Le mal, nous le savons, est entré dans ce monde pour détruire l'œuvre de Dieu. L'adversaire, Satan, le diable, est Dieu. Il s'oppose à lui. Il veut ruiner, il veut détruire l'œuvre de Dieu. Il va tout faire en son pouvoir pour essayer d'y arriver. Le prince de ce monde n'a pas d'autre objectif. Il n'est pas là en train de regarder, d'être admiratif devant la beauté de l'œuvre de Dieu. Non, son but, c'est de détruire, c'est de ruiner l'œuvre de Dieu. Dieu, au contraire, veut le bonheur de sa créature. Il est plein de bonté, il est plein d'amour. Et les deux royaumes, inévitablement vont entrer en conflit. Et tout au long de la parole de Dieu, nous avons des images qui nous parlent, qui nous donnent un aperçu de ce conflit qui peut se présenter de différentes manières. Parfois, ça peut être une armée ou ça peut être un gouvernement qui va se lever, qui va s'opposer à l'œuvre de Dieu, qui va essayer de le détruire. Nous pensons à l'histoire d'Esther et toutes les décisions qui ont été prises, et on voit comment Dieu garde les siens. Mais tout au long de l'histoire, on peut retrouver d'autres exemples. Parfois, ça peut être un courant politique, si l'on regarde peut-être plus de nos jours, un courant politique qui va aller contre la révélation de Dieu, contre sa volonté, qui va chercher à mettre en avant quelque chose qui s'oppose à la révélation de Dieu. Parfois, ça peut être aussi sous la forme d'une religion. Et là encore, on souligne ce que l'on connaît, ce que l'on sait, mais la parole de Dieu, la Bible, n'enseigne pas de religion, elle enseigne la foi en Christ. Et la religion, en fait, est souvent le plus grand ennemi de la vérité. Satan se présente comme un ange de lumière. Et il va présenter une philosophie, il va présenter une religion, il va présenter un idéal, alors que ce soit un idéal politique ou un idéal social ou un idéal économique, un idéal écologique, ou toutes sortes d'idéal, mais un idéal sans Christ, un idéal sans Dieu. Il va utiliser, Satan, toutes sortes de méthodes pour chercher à détruire l'œuvre de Dieu, à le ruiner, à tenir l'homme éloigné de Dieu. Et quand on considère cela, quand on réalise cela, on n'est pas surpris de voir l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Et la vérité du retour de Christ nous rappelle que ce conflit ne se terminera qu'au retour de Christ. Ce conflit entre les deux royaumes ne se terminera que au retour du Seigneur Jésus-Christ et pas avant. C'est un conflit qui va durer jusqu'à la fin. C'est un conflit aussi qui connaît des périodes. Il y a des moments où l'évangile prospère, il y a des moments où l'évangile est accepté, où des foules sont attirées, et puis il y a des moments de désert où le monde est indifférent. Mais régulièrement, on voit tout au long de l'histoire de l'Église des périodes où Dieu se plaît à réveiller son Église et à appeler ces brebis en grande foule à venir. Tout a commencé avec la Pentecôte, mais après la Pentecôte, il y a la persécution, il y a la dispersion. Il y a eu, au long de l'histoire, il y a eu des périodes de ténèbres comme le Moyen Âge, où il y a toutes les superstitions possibles. Et là, Dieu se plaît à se révéler et par ce qu'on appelle la réforme. Par des hommes comme Luther, Calvin et d'autres. Et puis tout au long de l'histoire, d'autres périodes où Dieu se plaît à réveiller son peuple et par ce réveil toucher à salut un grand nombre. Mais il y a aussi la réalité donc que tout va se terminer, ce conflit se terminera par une crise. Mais là, l'autre réalité aussi, c'est que si il y a ce conflit entre deux royaumes, conflit qui ne connaîtra la fin qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, la troisième chose, c'est que cette vérité de l'avènement de Christ, du retour de Christ, souligne la certitude du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il arrivera, et là on ne va pas chercher à comprendre tous les détails, mais quoi qu'il arrivera, le plan de salut, le fait que Dieu a dessiné ce plan et qu'il applique ce plan de salut, ce plan de salut garantit que Jésus-Christ triomphe de tous ses ennemis. Et ce triomphe sera visible aux yeux de tous. Bien entendu, comme j'ai dit, il y a des périodes et il y a des moments dans l'histoire et même dans notre histoire personnelle où ce sera peut-être difficile de voir cela. Et il y a des moments dans l'histoire où l'on pense et on pensera que la vérité aura disparu. Mais cela ne devrait pas nous surprendre. Nous sommes, comme j'ai dit, dans ce conflit et ce conflit durera Mais le jour vient où Jésus-Christ sera reconnu par tous, le Seigneur, et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et en attendant ce jour, le rôle, notre rôle est de, non pas d'essayer de rendre le monde meilleur, parce que cela n'arrivera pas. Et la parole de Dieu ne parle pas que ce monde sera rendu meilleur. Notre rôle est d'annoncer l'évangile, de vivre cet évangile, d'appeler les hommes hors de ce monde et à entrer dans le royaume de Dieu, d'amener les hommes à être réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Notre rôle, ce n'est pas de chercher à améliorer ce monde, mais d'appeler les brebis du troupeau hors de ce monde et à entrer dans la bergerie. Et en cela, l'Évangile n'a jamais échoué. L'Évangile n'a jamais échoué. L'Évangile n'a jamais promis que ce monde irait de mieux en mieux. Non, ce monde restera mauvais jusqu'à sa destruction finale, jusqu'au retour de Jésus-Christ dans sa gloire. L'Évangile n'a jamais échoué lorsqu'il touche les cœurs et qu'il les amène à voir leur état de pécheur et à voir leur besoin de sauveur et à appeler à Jésus-Christ, à venir à lui dans la foi, dans la repentance et en reconnaissant que lui seul sauve le pécheur. En cela, l'Évangile n'a jamais échoué. Et l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelle est une conclusion pour nous? C'est que l'état de ce monde dans lequel nous vivons ne devrait pas nous surprendre, parce que toute la parole de Dieu, l'Évangile et le Nouveau Testament nous le disent, que ce monde est un monde pécheur. Ce monde appartient au prince des ténèbres et que nous étions de ce monde, mais qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour y mettre fin. Et c'est le thème que l'apôtre Pierre aborde et donc qu'il va développer dans les versets et dans les chapitres 2 et 3 de sa lettre. Cette vérité du retour du Seigneur Jésus-Christ est ce qui apporte le réconfort dont nous avons besoin. Quand nous voyons tout ce qui se trouve autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, et tout ce qui est annoncé, il parle de faux prophètes, il parle de moqueurs. Au chapitre 3, par exemple, il parle au verset 4, ils disent, où est la promesse de son avènement? Etc. Tous ceux qui disent, ben voilà, vous l'annoncez, mais il ne vient pas. Mais c'est à la lumière du retour de Christ que l'apôtre Pierre met en évidence ces choses, mais il dit et il donne cet encouragement aux croyants de se réjouir de cette certitude que quoi qu'il arrivera, si nous sommes à Christ, nous sommes gardés pour le jour de Christ, pour le jour où il reviendra dans sa gloire, chercher les siens pour être avec lui pour toujours. Personne ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Et ce conflit qui existe dans le monde, et ce conflit qui même existe dans le cœur du croyant, dans lequel il y a ces deux natures. Cette ancienne nature, l'homme charnel, et cette nature qui est née de Dieu, ce conflit ne cessera qu'au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Notre prière, donc, est que Dieu nous aide à vivre à la lumière de ce jour merveilleux de ce jour glorieux, qui nous aide à ne pas perdre courage, même si autour de nous, nous voyons les choses se dégrader, ne soyons pas surpris. C'est la conséquence de l'homme et de son péché, de la direction que donne le prince de ce monde. Mais que Dieu nous aide à persévérer sans perdre de vue qu'un jour vient où toute langue confessera que notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est révélé dans ce monde, celui qui s'est révélé à nous, que notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, véritablement Seigneur, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il est l'objet de tout l'honneur et toute la gloire. Que Dieu nous aide à saisir cela et qu'il nous aide à le vivre, même dans les jours difficiles, afin que son nom soit glorifié. Que Dieu donc nous aide à comprendre cela pour sa gloire. Amen.